Bonsoir à tous. Donc, avant d'attaquer les travaux du conseil municipal, on va laisser la parole à nos amis GEG et Grinal pour la présentation annuelle du rapport de concession. Et ensuite, on ouvrira le conseil municipal.
OK. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, Pascal Méni. Donc, je suis accompagné de Jean-Marc Aubert et Julien Fouchric, qui appartiennent à Greenalp, donc le distributeur. Et moi, je suis plutôt côté du fournisseur, donc de la molécule et d'électricité, donc GEG. Donc, on va vous présenter le compte-rendu annuel de concession pour l'année 2024. Donc, il va se décomposer en deux parties. D'abord, la première partie... qui sera présenté en duo avec Julien et Jean-Marc sur l'aspect distributeur. Et moi, je vous parlerai après des tarifs réglementés de vente qui sera plutôt en deuxième partie. Voilà, donc je laisse la parole à Jean-Marc.
Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc, on va vous présenter la partie qui correspond donc à Greenalp, hein, le gestionnaire de réseau de distribution. Alors, on va commencer traditionnellement par les chiffres clés de la concession. Donc, ce sont des chiffres qui globalement évoluent peu, puisqu'il n'y a pas énormément d'extension. Et quand on fait des travaux de renouvellement, en général, on dépose du réseau pour en remplacer par du nouveau, donc il n'y a pas des variations de longueur importantes. Donc c'est vrai pour le réseau moyenne tension, pour le réseau HTA, également pour le réseau basse tension, hein, qui, je le rappelle, est finalement le réseau qui va être le plus proche de chacun, puisque c'est la tension que vous utilisez. Pour faire le lien donc, entre la HTA et la basse tension, on a des postes de transformation de distribution publique. Donc là aussi, le nombre n'évolue pas. 12 postes de transformation clients. Donc ça, c'est pour les clients plus importants qui sont directement raccordés sur la HTA et qui ont des puissances de raccordement qui sont... donc c'est pour les industriels, les gros tertiaires, hein, comme par exemple récemment Super U sur votre commune. J'ai sauté les installations de production. Donc là, par contre, c'est un élément qui évolue, hein, d'une année sur l'autre, puisque là, on a quasiment un bond de 50% de plus d'installations de production par rapport à 2023. Donc c'est beaucoup de petits photovoltaïques, hein, sur toiture, mais pour autant, c'est quand même un élément important. Avec une évolution, puisqu'on était à 71 installations à fin 2023 et on se retrouve avec 110 à fin 2024. Le nombre de clients, alors on compte un nombre de clients moyen dans l'année, hein, puisqu'il y a des clients qui partent, d'autres qui arrivent. Donc voilà, on regarde ça non pas au 31-12, mais en moyenne sur l'année. Donc 2670 clients, hein, qui est aussi un chiffre qui est constant. La valeur nette des actifs, hein, qui représente donc la valeur des biens en concession, qui augmente légèrement, puisque nous avons eu pas mal d'investissements en 2023 et en 2024, pardon. Et puis les ventes d'acheminement, donc c'est ce qu'on voit transiter sur le réseau, hein, finalement, peu importe le tarif du client. C'est nous, notre mission, c'est de faire que ce transit existe et soit sécurisé. Donc là, on est à peu près à équivalent avec 28 gigawattheures an de transit. Non, c'était moi. Pardon. Si l'on regarde donc la qualité de fourniture, donc on a un indicateur, hein, qui est le temps moyen de coupure par abonné. Donc c'est le, comment dirais-je, c'est quand on a une coupure, ben on regarde le temps où il y a eu le défaut d'alimentation. Et ensuite, on rapporte ça, le nombre de clients concernés sur le nombre de clients de la concession. Et donc, à chaque incident, ben, on calcule ça et on, et on les additionne à la fin de l'année. Et donc là, on a un temps de coupure de 32 minutes. Qui est essentiellement dû cette année à des défauts sur le réseau HTA. Et donc, comme le réseau HTA, ben, c'est celui qui dessert beaucoup de clients à partir du moment où un incident, ben, ça touche beaucoup de clients. Et donc, on a des taux de TMCA qui sont importants, mais qui sont globalement à peu près en ligne avec ce qu'on a connu les trois dernières années.
Bonjour. Dans le détail des coupures, donc effectivement, ces 30 minutes correspondent à deux coupures sur le réseau haute tension. La première, c'est plutôt sur la période de fin d'hiver, avec des chutes d'arbres sur les lignes aériennes qui traversent le Tréry, donc sur le secteur de la Gonardière. Et le deuxième, qui est en lien avec l'éboulement de la carrière de Saint-Quentin, qui a provoqué des variations importantes sur le réseau RTE et qui a provoqué un réenclenchement et un défaut sur un client de Vinet. Voilà. Le 27 juillet. Pour les travaux, bon, il y a plein de petites coupures par-ci par-là, mais celles qui rentrent dans les indicateurs sont celles donc du 2 décembre sur la rue Expilly. Pour l'enfouissement des réseaux basse tension en vue de la restructuration Mayette 2. En 2024, on a donc réalisé l'enfouissement des réseaux basse tension sur l'impasse Expilly. Ça représente 160 mètres de réseau. On a remplacé des poteaux vétustes sur la commune. On a remplacé des cellules et des tableaux basse tension. On a aussi donc raccordé 34 opérations de raccordement, notamment le raccordement du stockage de l'unité de stockage par batterie montée de Trelin. En 2024, ça a été aussi donc le déploiement des compteurs communicants sur la commune de Vinet. C'est à peu près 2141 compteurs qui ont été posés par le prestataire Parera. Donc le prestataire, je rappelle, c'est le prestataire qui a assuré un déploiement ciblé avec une date butoir qui était le 31 décembre 2024. Il a réussi son contrat puisqu'il a, au 31-12-2024, il y a eu 54 concentrateurs posés et 2378 compteurs au total d'installés sur la commune.
Voilà, donc si on fait un bilan à date hein, des compteurs communicants, on a continué bien sûr hein, en 2025 et aujourd'hui on a 2560 compteurs qui ont été posés sur la commune. Bon, rapproché, hein, on a parlé, il y a 2670 clients. Voilà, donc on commence à avoir un très bon taux d'équipement. Sur les prévisions de travaux, alors c'est toujours un exercice difficile, hein, puisque nous, ces prévisions de travaux, on les fait au mois d'octobre de l'année 2024, et là, on est en octobre 2025, donc l'année est quasiment passée, donc on voit tout de suite ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, on continue à déployer les compteurs communicants dans une phase dite de saturation. Alors, la saturation, c'est quoi? C'est justement pour atteindre les derniers compteurs là qui nous restent, parce que bah, y avait des clients qui étaient absents au moment du passage de Parera, qui n'étaient pas là pour une raison X ou Y. Donc, on retourne les voir pour poser ces compteurs. Il y a aussi des cas où la situation du compteur, c'était un peu compliqué et donc ça... Parera n'a pas pu faire et donc ce sont nos salariés qui reviennent ensuite pour réaliser la pose du compteur. Au-delà de des compteurs communicants, on a également, on avait en projet donc un enfouissement de réseau basse tension chemin des gorges en lien avec une opération de raccordement. Comme on l'a fait l'année dernière de la rénovation de cellules HTA, deux tableaux urbains basse tension et puis également donc on a envisagé divers raccordements. Alors on avait par exemple dans les plus importants hein, l'opération Vinet, le Super U, l'avenue de l'Europe, la nouvelle gendarmerie. sachant que il y a certaines opérations qui ont été réalisées en 2025 et d'autres qui le seront un petit peu plus tard. Si l'on regarde donc sur la partie investissement, moi c'est un petit peu petit sur mon écran, donc je vais m'aider des notes. Oui, mais donc on a toujours une activité de raccordement qui est importante hein, pour 120 kilo-euros. Hein, donc ça montre aussi le dynamisme qui existe aujourd'hui sur la commune. Et également les frais qui sont induits par les raccordements photovoltaïques pour certains. Et puis donc on a évoqué le raccordement des installations de production et de stockage photoélectrique, électrique, de stockage donc pour les 14 000 euros là, que l'on voit sur le raccordement des producteurs HTA. Le gros des investissements ensuite en amélioration du patrimoine, on trouve le renouvellement des compteurs communicants, donc pour 120 000 euros à peu près. Et puis ensuite des renouvellements de réseaux avec du passage d'ouvrages aériens souterrains hein, pour 60 000 euros. Tout ce qui est rénovation de cellules et de tableaux urbains, donc on les retrouve sur la ligne en dessous pour 25 000 euros. Donc au global, Greenalp a investi un petit peu plus de 350 000 euros sur la commune de Vinay en 2024. Si on regarde le compte de résultat de la concession, on a vu qu'il y avait un transit à peu près constant, donc sur la partie haute hein, et la marge électricité. Donc on retrouve des chiffres qui sont à peu près identiques hein, en 2023 et en 2024. En fait, la différence de production de l'exercice se fait surtout sur la production immobilisée, puisque donc on a investi et donc on retrouve sur cette production qui est en fait la valorisation de ce que Greenalp met en propre dans les investissements, c'est-à-dire tout ce qui est main d'œuvre, tout ce qui est sortie magasin. J'ai dit une bêtise. Ah bon. Côté dépenses, donc il y a toute la partie achat de matériel consommable, hein, donc là qui est un petit peu en décroissance. Les charges externes également, charges de personnel sont constantes. Et puis donc on a 60 000 euros de redevances, de concessions que l'on comptabilise hein, côté Greenalp. Donc le résultat d'exploitation est à peu près constant, hein, 478 000 en 2023, 464 000 euros en 2024, et donc pour un résultat final net de 320 000 euros en 2024. Voilà. Et qui est à mettre en regard des sommes qui sont aussi investies. Hein.
Pour souligner la redevance de concession.
Je crois que j'en ai parlé. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur la partie gestionnaire de réseau de distribution?
Vous parlez de l'augmentation des raccordements du photovoltaïque. Est-ce que à terme, on peut penser qu'il y aura un impact sur les réseaux, sur les investissements à faire? Est-ce que ça peut modifier les dimensionnements des réseaux?
C'est difficile à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, clairement non.
D'accord.
Demain ou après-demain, si effectivement on n'a plus, alors je sais plus, j'ai dit combien, 110, mais si demain on en a trois fois plus, oui, il y aura certainement un impact. Après, c'est souvent des installations qui sont quand même de faible puissance hein, au regard d'un champ photovoltaïque, par exemple. Mais qui sont souvent quand même autoconsommés. hein, puisqu'on a la production, mais à côté, on a une consommation de cette production, électriquement parlant. Et donc, ce n'est pas forcément de l'électricité qui est injectée sur le réseau et qui nous obligerait à dimensionner autrement le réseau qui se retrouve en sortie de cette production. Par contre, c'est beaucoup moins vrai quand on commence. J'ai parlé tout à l'heure du raccordement de Super-U. On a des panneaux photovoltaïques qui sont sur le parking, par exemple. Là, on commence à avoir des puissances un petit peu plus importantes qui, là aussi, sont consommées localement parce qu'à côté de ça, il y a un gros consommateur hein, qui est le supermarché. Mais à des endroits où on va avoir, où on pourrait imaginer un champ de panneaux photovoltaïques avec très peu de consommation autour, ben là, oui, clairement, ça pourrait avoir un impact sur le dimensionnement du réseau et l'obligation de renforcer le réseau, finalement, pour permettre d'évacuer cette puissance.
D'accord, merci.
Là-dessus, il y a quand même une veille au niveau de la qualité des ouvrages aussi, la qualité du réseau. Donc, on va dire la charge journalière est observée quand même de près, puisque derrière l'impact, on va dire financier, il n'y est pas. L'impact aujourd'hui sur les renouvellements des ouvrages, ils n'y sont pas. Mais on voit aujourd'hui la courbe qu'on avait l'habitude de voir le matin change radicalement aujourd'hui. Donc, il y a vraiment des ingénieurs qui travaillent en off sur la modélisation des ouvrages, et aujourd'hui voilà, on se projette un tout petit peu sur comment va varier on va dire la puissance sur la journée.
D'accord, merci.
Oui, bonsoir. Ceux qui ont les contrats UJP, il n'y a toujours pas le nouveau compteur communicant. C'est pas possible de raccorder, je crois.
Non. Aujourd'hui, avec le système d'information clientèle que l'on a, effectivement, on ne peut pas basculer ses clients avec le compteur communicant. Mais je pense qu'avec Origami, on devrait pouvoir faire à terme, puisqu'on va changer de logiciel clientèle. Et donc, ça nous permettra de basculer les clients EJP. Oui, c'est EJP. Hein, EJP. Oui, voilà, les clients EJP qu'on ne peut pas faire aujourd'hui.
26.
Ah, 2026 ou 27, quoi. Voilà.
Ouais, mais c'est important pour nous parce que. Ça reste important pour nous parce que. Ces compteurs-là sont plus fabriqués, donc le jour où vous tombez en panne, on sera bien obligé de remplacer quelque chose. Donc ça, c'est un sujet GRD. Après, comme il a dit, les développements pour pouvoir accueillir la base de données de cette programmation-là a un coût de développement important pour le peu de compteurs. Et comme on est en phase de bascule de logiciel de gestion GRD clientèle, effectivement, il vaut mieux le payer sur le nouveau et arriver avec une bonne base de données.
Et je rajouterai, n'ayez pas peur, vous aurez toujours vos jours rouges.
Les jours rouges, ça reste à l'espoir.
Non, mais c'est en cours de déploiement. C'est surtout des problèmes d'intégration du planning et des interfaces. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions pour le réseau et le transport, donc on va passer par GEG. Donc moi je vais vous parler plutôt des évolutions de prix par rapport aux tarifs réglementés de vente. Donc c'est je rappelle que dans le contrat de concession, vous avez deux parties, vous avez l'activité et justement le réseau, la valeur du réseau qui est dans la commune, et d'une partie qui fait une part, et puis de l'autre côté, le tarif réglementé de vente. Donc c'est qu'un seul fournisseur sur le territoire qui peut proposer le tarif réglementé de vente, parce qu'il est protégé par l'État et qui est émis par l'État. Donc il y a deux variations qui sont importantes dans l'année et qui sont déterminées par l'État. Donc c'est au mois de février et au mois d'août. Donc au mois de février 2024, donc on rembobine un peu. Donc on parle d'augmentation, donc de différentes augmentations, mais plutôt en TTC pour les clients qui sont en base ou en je vous laisse le lire quoi, soit en moyenne c'était 9,5%, mais qui sont décomposé soit de 8,6% en moyenne quoi, sur les clients en base et 9,8% pour ceux qui sont en heure creuse, heure pleine. Donc là, cette variation, je parle des fois en hors taxe ou TTC, mais là, quand vous payez bien en TTC. Et cette différence est faite par l'assise sur l'électricité. Donc avant, on était à l'assise sur l'électricité, sur vos factures, ben, c'est une taxe. Qui est passé de 1 euro du mégawattheure à 21 euros du mégawattheure. Donc c'est ça qui a fait votre différence au mois de février pour l'ensemble des Français, quelle que soit votre offre, que vous soyez en offre TRV ou en offre de marché. Donc cette augmentation, je le rappelle, c'était un bouclier tarifaire parce que en 2023, il y avait la crise sur les marchés et normalement, au mois de février 2023, même 2022, on devait augmenter l'électricité de 45%, alors qu'avec les tarifs réglementés de vente, on les a augmentés que de 4%. Et justement, le tampon a été fait par un bouclier tarifaire. Et là, on avait redescendu justement l'assise sur l'électricité à 1 euro. Et là, on l'a re-augmenté du fait de la stabilité des marchés à 21 euros. Ensuite, au 1er août 2024, il y avait l'augmentation de... Donc, c'est la CRE, la Commission de régulation de l'électricité, qui propose toujours au gouvernement des tarifs. Et donc, au 1er août, ils avaient proposé une augmentation de 1%. Et donc l'État, je ne sais pas si vous en souvenez, mais en 2024, on n'avait plus d'Assemblée, on n'avait pas trop d'Assemblée nationale, on ne savait pas qui votait, etc. Donc on était un peu dans le flou, donc on avait un peu laissé tomber. Donc il n'y a pas eu d'augmentation au mois d'août. Et pour les ménages plus précaires sur le dispositif chèque énergie sur la concession, donc on a eu 237 chèques qui ont été traités sur la concession pour un montant de 33 869. Voilà. Dans le système de chèque énergie. Donc, pour les ventes, donc 2023, il y a une légère hausse. On est passé de 13 075 à 13 236. Donc, pour un total de clients au tarif réglementé de vente de 2638. Donc on a un bon taux, c'est une commune où on a un bon taux de clients mensualisés parce qu'il est de 61%. D'habitude on est plutôt autour des zones à 30 ou 40%. Donc c'est une bonne moyenne. Et je voulais dire aussi qu'on a fait aussi un résultat d'enquête de satisfaction. Et par rapport aux agences locales, on a fait spécifiquement... sur les agences locales, donc qui sont Villarbonneau, Alvar et Vinay et Saint-Marcellin. Et on a reçu un bon taux, c'est-à-dire que 9 clients sur 10 sont contents de nos services. Voilà, je voulais le souligner et remercier aussi tous les clients qui ont répondu par rapport à cette enquête. Donc le résultat 2024, donc on est avec des ventes d'électricité qui se montent avec une marge d'électricité à 398, une production immobilisée qui est stable à 96, donc une production de l'exercice à 494 contre 666. Ensuite, toutes les charges externes qui sont justement les charges qui sont imputées directement de l'agence de Vinay. Ensuite des cessions internes et on a un résultat d'exploitation de 335 000 contre 495 Et on a, bien sûr, on doit payer l'impôt sur les sociétés et la participation aux salariés qu'on retranche. Et donc, on a cette année un résultat net de 244 000 euros pour la concession. Donc, pour les perspectives, donc après, je vous parle toujours de par rapport à ce qui va arriver. Donc, pour 2025, eh ben, on a eu déjà au 1er février une augmentation de 14%. Donc, moins 14%, pardon, sur les tarifs en TTC et moins 16% pour les tarifs en heure creuse, heure pleine. Donc, c'est une évolution donc, suite aux baisses des tarifs de gros sur les marchés. Il y a une répercussion qui est toujours un peu plus longue parce qu'il y a 6 mois d'écart. Et donc, par rapport à la proposition de la CRE, on a proposé, et donc l'État a proposé, une diminution en février. Et donc, cette diminution a été moins importante du fait parce qu'on a re-augmenté aussi l'assise de l'électricité de 21 euros à 33,7 euros par mégawattheure. Voilà. Donc, on augmente toujours. Ça, c'est toujours l'assise sur l'électricité. Et au 1er août, il y a eu un grand changement. C'est que on avait l'habitude d'avoir, pour les particuliers, parce que les professionnels, ça fait longtemps qu'ils ont leur abonnement à 20%, mais pour les particuliers, avant, ils payaient toujours leur TVA à 5,5%. Que ce soit pour les abonnements de gaz et d'électricité. Et au 1er août, ils ont monté de 20%. Donc ça fait une augmentation. Et pour compenser, l'État a rejoué encore sur la taxe sur l'assise, qui était à 33,7, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au mois de février. Ils l'ont baissé à 29,98 pour faire un peu, pour compenser la hausse de la TVA sur les abonnements. Donc maintenant, globalement, par rapport aux abonnements, c'est-à-dire que si vous consommez beaucoup, vous payez moins. Si vous ne consommez pas beaucoup, vous payez plus. Ce qu'il faut retenir. Et je vous laisse à chaque fois, comme chaque année, une petite évolution donc d'une facture simple. C'est un 6 kg simple tarif, donc de 3000 pour une consommation de 3000 kilos. Donc on voit, on part en juillet 2021, on était en tarif réglementé de vente à 601 euros à l'année. On voit l'augmentation du 4% où il y avait, justement, je vous ai parlé en 2022, du bouclier tarifaire. Et ensuite, on a eu les hausses successives en 23 de 15 et 10%. Ensuite, encore une hausse en 2024. Et le moins 15%, bien sûr, comme je vous l'ai évoqué, en 2024. Donc, on est maintenant à une facture quand même de 816 euros par mois. Donc, mais par contre, c'est la fin du bouclier tarifaire. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces variations. Je vous ai assommé.
Non, merci pour ce rapport détaillé. C'est toujours intéressant d'avoir ces chiffres. Ce qui est encourageant quand même, c'est qu'on voit qu'il y a une augmentation de l'énergie, on va dire, ce qu'on appelle l'énergie verte. Donc c'est bien. C'est preuve qu'on est dans la dynamique. Moi, je voulais vous remercier pour la collaboration qu'on a tout au long de l'année. Alors, plus avec Greenup qu'avec GEG, parce que GEG, c'est pour les factures, c'est jamais très marrant. Par contre, GEG, ben, c'est quand on a des incidents, ils sont là, c'est appréciable. Il y a un contact de proximité, ce qu'on n'a pas toujours, que nos collègues des communes voisines n'ont pas forcément avec les opérateurs historiques. Donc, merci à vous. Effectivement, il y a eu l'incident de juillet qui avait impacté la commune. Vous avez été réactif, comme tout le temps, donc merci. On a, et là, c'est plus Greenalp en tant que prestataire. C'était notre prestataire pour changer, qui n'a rien à voir avec la concession, mais qui était en tant que prestataire pour changer l'ensemble de l'éclairage pour le passer en LED, avec une expertise aussi dessus, sur le fonctionnement. Donc merci pour tout le travail que vous faites et notre collaboration qu'on a sur la commune avec vous. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on libère ces messieurs? Merci beaucoup. Bonne soirée.
Et bonne soirée.
Allez. Avant de démarrer la séance du conseil municipal du 24 septembre, je voulais qu'on prenne une minute de silence à la mémoire de Gérard Quinquinet, qui est décédé le 30 juin 2025, et donc qui était impliqué très fortement dans la commune, qui a rempli beaucoup de rôles, que ce soit de trésorier, à l'ADMR, après de président à l'ADMR, le premier adjoint, il a été également comptable à la commune de Vinay, et j'en oublie avec également toutes ses casquettes associatives. Et d'ailleurs, il y avait un article sur la presse cette semaine qui mettait en avant son travail au niveau des associations de danse folklorique. Donc je vous propose qu'on se lève et qu'on marque une minute de silence pour Gérard. Merci. Ça de l'appel. Donc, Jackie Sombeil, donc absent, pouvoir à Raymond Baudin. Vanessa Savigny, absente, pouvoir à Jean-Pierre Monet. Myriam Charabazi. Gislaine Jeunin. Raymond Baudin. Jean-Pierre Marion, Francine Arrigoni, Firmin Lopez, Pierre Bluna, donc Béatrice Rosan, absente, pouvoir à Jean-Pierre Marion, René Roja, Nicolino Tonambé, absent, pouvoir à moi-même, Patricia Morgado, absente, pouvoir à Firmin Lopez, Renaud Mélinon, Bérangère Champon, Anne-Cécile Germain, Delphine Raymond Allon, Véronique Bérard, Alexandre Lussos, absent, pouvoir à René Roja, Nicolas Bossupica, absent, pouvoir à Myriam Charabazi, Eric Sévestreni, Christine Curteau, Daniel Mansi, Cécile Gaillard et Cécile Bizion. Le quorum est atteint. Donc je vous propose de donner votre approbation pour le procès-verbal du conseil municipal du 25 juin 2025. Est-ce qu'il y a des questions, des observations avant que je mette au vote? Donc je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Désignation du secrétaire de séance. Donc, Nicolas est absent. Alexandre est absent. Donc, Myriam a l'honneur. Je vous propose Myriam Charabazi, donc d'être nommée secrétaire de séance. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc je commence par la délibération 2025-48, donc qui est l'approbation du contrat de concession annuelle donc, que nous a présenté GEG et Greenalp. Donc, je vous renouvelle. Est-ce qu'il y a des questions à nouveau là-dessus? S'il n'y a pas de questions, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc la délibération 2025-49, c'est le projet de cession de parcelle cadastrée AE224, située rue Jean Moulin. Je ne sais pas si on a le plan qui arrive. Donc je vous rappelle qu'en fait c'est une parcelle qui est issue de l'ancien tédement Guéripel que la commune avait acheté à l'époque en 2021. Et cette parcelle on avait délibéré en 2024 pour la céder à Madame Sylvie Garipel. Quand on est venu pour passer chez le notaire, on s'est aperçu qu'il y avait une... Voilà, donc si tout le monde se souvient, c'est la parcelle. Donc c'est un reliquat de parcelle qui est au-dessus du mur quand la commune a acheté en 2021. En 2024, on a délibéré pour la vendre à Madame Garipel. Quand par contre, il y avait une manipulation du cadastre qui avait inclus la parcelle dans le domaine public, ce qui est, donc elle avait disparu. Donc il a fallu recréer la parcelle, donc qui était à la base la parcelle 170, et donc qui a été recréée aujourd'hui pour devenir la AE 224. Et qu'on peut. Et par contre, comme on change de numéro de parcelle, on est obligé de redélibérer. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Donc en fait, on reprend la même délibération, mais en changeant le numéro de parcelle, qui n'est plus le AE 170, mais AE 224. Je vous vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc là, on va. La délibération, donc, 50. Mais on va la traiter avec la 51 parce qu'elles vont de pair. Donc là, on est dans la zone d'élevée. On va attendre le petit bout de plomb. Donc c'est dans la zone d'élevée. Donc vous avez pu voir que les travaux d'extension d'élevée 2 ont commencé pour l'installation donc, de l'entreprise Depagne, donc qui va s'installer sur Vinet. Sur 4,5 hectares, avec la construction d'un bâtiment de 17 000 m2, et ramener donc les trois sites, le site de Mélan, Saint-Gervais et La Rivière, sur le site de Vinet. Donc ces travaux ont démarré. Et en même temps, les travaux donc, d'aménagement de la zone d'activité vont démarrer aussi le mois prochain. Et on a cette voie communale, ce chemin rural aujourd'hui, qui entre. Qui se situe derrière l'entreprise Rivière, qui partage donc, qui coupe la zone d'élevée 1 et la zone d'élevée 2. Et il est proposé, d'une part, de désaffecter une partie du chemin, donc qui est la partie teintée en vert foncé, en orange sur, votre, orange, sur le plan. Donc cette partie-là, de la, donc la désaffecter à destination du public, ensuite la déclasser pour qu'on puisse la vendre à terme. Et ce lien sera remplacé le long de la voie ferrée et ensuite on reviendra le long de la future parcelle qui pourrait être vendue en théorie aux établissements Rivière en vert. Et du coup, le cheminement serait maintenant le cheminement qui est en bleu. Et le cheminement qui est en orange le long de la voie ferrée sera la future liaison cyclable sur laquelle on a fait la demande de financement au départ. Pour faire la liaison avec la V63 et la gare. Voilà. Donc, une délibération pour désaffecter à l'usage public la voie, la partie de la voie qu'on a vue en vert, et en orange, et une délibération pour déclasser cette voirie pour qu'on puisse ensuite la vendre. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations là-dessus?
Oui. Moi, j'ai une question. Ce chemin, il existe aujourd'hui. Alors, il n'est pas en très bon état, mais il est circulable. On va en créer un de l'autre côté, mais qui c'est qui va payer?
Alors, tout ça, c'est les travaux qui sont pris en charge par l'intercommunalité dans le cadre de l'aménagement de la zone d'élevée. Puisque, en fait, ce chemin qui est aujourd'hui en bleu foncé, est nécessaire pour venir desservir en assainissement et en eau potable la zone d'activité. Donc c'est pour ça qu'on en profite pour mutualiser et ces travaux-là sont pris en charge dans le cadre de l'aménagement de la zone.
Donc, y compris le contour.
Y compris le contour. Il n'y a aucune implication financière de la commune de Vinet.
D'accord.
D'autres questions, d'autres observations? Alors, je mets aux voix donc, la 2050, donc, qui est la désaffection de la voie, d'une partie de la voie. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et la deuxième, la 51, donc, qui est pour le déclassement cette fois. Donc, c'est très administratif comme démarche, mais c'est obligatoire. Donc, pour le déclassement du chemin de la zone d'élevée, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. On est toujours dans les régularisations. Là, on est sur un projet d'acquisition de parcelle partielle d'une parcelle B49 sur la commune de l'Albinc au profit de la commune de Vinay. C'est une régularisation foncière de la rue du Vercors. Alors, c'est un dossier qui a été traité sous convention en 2015, donc par une délibération du 24 juin 2015 par l'ancienne municipalité. Ensuite, il y avait des délibérations successives pour gérer la partie financière. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la commune de l'Albinc était propriétaire de la parcelle B49, donc c'est toute la parcelle où il y a l'assiette de la voirie. En 2015, ils ont décidé de créer une voirie pour de faire la jonction entre la 1092 et la route du cimetière, route du stade. Cette opération était en fait sur la commune de Vinay, mais qui était une parcelle privée de la commune de l'Albinc. Il y avait une convention qui avait été faite. Ces travaux ont été réalisés, cofinancés par la commune de l'Albinc et Vinay, mais majoritairement pour une subvention. Et ensuite, cette route, maintenant, aujourd'hui, est en enrobée, et qui est donc assimilée à une voie communale sur la commune de Vinay, mais qui en fait qui a été plus ou moins faite par l'Albinc. Mais on a besoin de régulariser ça, parce qu'aujourd'hui, en fait, dans les faits, c'est un chemin privé qui sort sur la 1092, puisqu'il est sur la commune de l'Albinc et il n'est pas classé dans notre voirie communale. Donc le principe, c'est de régulariser, donc c'est de récupérer l'emprise de la voirie, et uniquement l'emprise de la voirie à l'euro symbolique, et ensuite, on la classera dans le domaine public de la commune pour que ça soit une voie communale, pour que la police du maire puisse appliquer dessus. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris un petit peu, mais c'est une régularisation de quelque chose qui existe depuis 10 ans, mais qu'il est urgent de régulariser. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et on est toujours dans des régularisations de choses qui traînent et qui embêtent un petit peu. Et là, c'est la proposition d'acquisition de la parcelle AX171 et une partie de la parcelle AX94 située rue Cyprien-Julin. Enfin, c'est à gauche de la rue Cyprien-Julin. Donc là, en fait, c'était une propriété qui était la propriété de la famille Julin. Il y a à peu près une dizaine d'années, ils ont fait un lotissement. La voirie qui était le long de ce lotissement et qui dessert les maisons qui sont au-dessus, donc on a Montera, Merche, il doit y avoir Chazot et Mossère, est un chemin privé avec une servitude historique, mais en même temps ça fait la jonction avec le lotissement de la Renaud-Vallière, donc qui est relativement emprunté en piétons et en particulier par les enfants. Donc aujourd'hui, ce chemin est mal entretenu, il nous génère à chaque fois des dégâts sur la rue Cyprien-Julin avec des embâcs et des pierres qui descendent. Donc il est proposé de récupérer ce ténement à l'euro symbolique pour qu'on puisse l'intégrer dans notre voirie et le gérer correctement et qu'on puisse également maîtriser la circulation qui se fait dessus et avoir une vraie voie communale qui vient desservir d'une manière douce le lotissement de la Renaud-Vallière. Là, je ne sais pas s'il y a des observations, des questions. S'il n'y a pas d'observation ni de questions, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. 2025-54, c'est une convention de servitude. Alors, je vous propose qu'on traite la 54 et la 55 parce que c'est les mêmes avec une petite subtilité. Donc, Enedis va procéder à un renforcement du poste source de Vinay. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, on vient de le voir tout à l'heure, la concession est à GEG, mais pour autant, le transporteur qui amène de l'électricité jusqu'à Vinay depuis les barrages ou les centrales électriques, etc., c'est Enedis. Donc Enedis amène à la source, le poste source qui est après Chapotin, et de ce poste source, GEG, en plus, avec Rhinalp, redispatch sur le territoire. Là, il y a nécessité de renforcer ce poste parce que la commune de Vinay a grandi. et en particulier des demandes importantes, et entre autres la future entreprise de Pagne. Donc Enedis a besoin de renforcer son arrivée sur Vidé. Donc ils vont retirer depuis le poste de, qui est situé Montéponnet, en haut de la Montéponnet, sur le plateau de la Blache, ils vont retirer un câble, enfin une série de câbles qui va alimenter le poste de source pour que Vidé ait plus de puissance. Pour ça, ils ont besoin d'avoir, de passer sur des parcelles de la commune et des routes de la commune. Donc on a besoin de délibérer pour leur donner une autorisation de passage, donc une servitude de passage. Et à un moment donné, quand on est sur le Pré-Chapotin, on se retrouve en tripartie. C'est pour ça qu'il y a deux conventions. À un moment donné, on est en tripartie avec SDH, parce que le Pré-Chapotin étant en bail à SDH, SDH doit délibérer aussi. Donc une délibération pour donner l'autorisation sur notre domaine à nous pur, et une délibération où on est en tripartie avec SDH. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet avec Enedis. Donc je mets aux voix, donc on commence par la 54, donc pour ce qui est de la commune de Vinépure. Non, oui c'est ça, 54 c'est la tripartite. Hein. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et pour la 55, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Je laisse la parole à Jean-Pierre Monnet pour la 2025-56.
2025-56, demande de subvention, opération un arbre, un habitant en Isère, City Park et collège et gymnase. En 2024, on avait déjà fait cette opération pour la rue Joseph Chassignon, on avait déjà planté un certain nombre d'arbres et demandé des subventions. Donc on souhaite refaire cette même opération sur deux espaces différents, le City Park et l'espace public. Donc parc entre le gymnase et la médiathèque, donc c'est la petite place goudronnée pour le moment qui est entre le gymnase et la médiathèque, où on va mettre 15 arbres et 70 arbustes, et on va aussi mettre des plantes et puis on va en gazonner. Au City Park, et là il y en a pas mal, il y en a besoin parce qu'on a planté quelques arbres, mais il y a beaucoup besoin d'ombre parce qu'il y a beaucoup de monde. Et voilà. Donc on planterait aussi 19 arbres là-bas. Voilà. Le coût total de l'opération s'élève à 39 000. Et en fait, on demande une subvention comme on l'a eu la dernière fois, qui est de 50%. Donc c'est cette demande de subvention. Donc on vous demande d'approuver les travaux et la demande de subvention.
Oui, j'ai une remarque en fait. Je trouve assez curieux que l'on fasse une demande pour planter des arbres alors qu'on vient d'en détruire quelques milliers pour installer une usine. Je trouve ça quand même assez fantastique. Mais bon,
ça va un peu avec quoi.
C'est voilà. Comme ça. Ouais. Après, la deuxième remarque, c'est vu la situation économique, est-ce que c'est bien le moment d'aller planter des arbres? Ça va quand même coûter 17 000 euros à la commune. Oui. Voilà, c'est la seule question, j'en ai parlé déjà en commission. Bon, voilà, est-ce que c'est le bon moment? Voilà.
C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, vu le réchauffement climatique, enfin, on s'aperçoit qu'on a des... C'est vrai que de planter des arbres le plus possible à l'intérieur de la ville, c'est intéressant. Et on s'aperçoit que dès qu'on a un arbre, on s'aperçoit que les gens se mettent dessous, se mettent à l'ombre. Et voilà, bon, il y a l'été, et puis il y a le fait que l'arbre redonne consomme du CO2. Enfin bon, voilà. Et c'est vrai que enlever dans une zone et les remettre à l'intérieur, je trouve que ça a son sens. Enfin, on ne les remettra pas tous, hein, mais ça a son sens quand même.
Ouais. Alors, Ils sont plantés quand même sur des zones où il va y avoir du public, hein, donc, et en particulier le City Park, hein, ça permet aux gens qui profitent de cet espace de pouvoir se tenir à l'ombre. Et le long de la médiathèque, dans le parc de la médiathèque, ça va sûrement permettre d'avoir aussi une activité relativement agréable par rapport à la médiathèque.
Ce sont deux endroits où il y a beaucoup de monde, il va y avoir beaucoup de monde.
Par contre, c'est clair qu'effectivement, je ne fais pas partie de ceux qui sont forcément favorables d'aller les mettre n'importe où et n'importe comment. Mais par contre, quand ils ont un vrai usage, plus que de, on va dire, que d'ornement ou autre, ça devient intéressant. Là, on peut manier les deux et c'est sympa quand même. Mais au vote, ou il y a d'autres observations? Je vais au vote. Qui s'abstient?
Moi.
Qui est contre? Merci.
Ensuite, c'est la convention c'est ce qu'on fait chaque année, la convention de mise à disposition des locaux communaux au profit des associations. Donc là, vous connaissez tous. Et puis la deuxième qui va avec, c'est la convention aussi de mise à disposition d'un minibus communal au profit des associations. C'est ce qu'on doit faire chaque année pour. Voilà.
Je mets au vote donc la 57, la convention pour les mises à disposition des locaux au profit des associations, donc convention qu'on prend chaque année. Donc qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et toujours pareil, la convention de mise à disposition d'un minibus communal au profit des associations. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. La numération 2025-59, c'est le partenariat de la ville pour la mise en place d'une mutuelle communale au profit des Binois. Donc on l'avait un peu évoqué. Donc ce qu'on vous propose, c'est d'entériner ce partenariat pour la mise en place d'une mutuelle communale au profit des Binois, donc en sachant que la commune de Vinay là-dessus n'a aucune démarche financière. On n'est pas, nous, on est juste là pour, on va dire, mettre à disposition des locaux et surtout veiller à ce que les gens sur lesquels on autorise à faire ça remplissent le cahier des charges qu'on s'était donné. Donc aujourd'hui, il y a eu un appel à projet. Qui a été, où un certain nombre de professionnels ont répondu, et la mutuelle entre nous qui semblait remplir tous les critères nous semble être la plus logique pour pouvoir remplir ce critère de mise en place de mutuelle communale. L'objectif est d'améliorer bien sûr la couverture de santé des habitants, de lutter contre le non-recours au droit parce que certains n'y vont pas, et de renforcer bien sûr le pouvoir d'achat avec des montants de mutuelles qui seraient bien sûr négociés et qui sont négociés à l'échelle nationale là-dessus. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. C'est une délibération de principe hein, puisque la commune n'est pas. Mais sur le principe, je trouvais que c'était quand même important de me souligner cet effort d'accompagner les Binois dans cette démarche. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, jusqu'à ce que. La commune va faire quoi exactement dans cet accompagnement? Rien du tout.
D'accord. Mettre à disposition des locaux.
Voilà, d'accord. Mettre à disposition des locaux quand même.
Mettre à disposition la salle des fêtes pour une réunion d'information, genre comme ça, et éventuellement relayer une information. Voilà, et surtout, c'est tout. Donc la mutuelle entre nous a été retenue à Saint-Martin, je crois, à l'Albinque, Saint-Quentin, enfin, c'est la mutuelle qui semble être le plus approprié par rapport aux objectifs communaux.
Oui, c'est permettre d'avoir des tarifs plus attractifs pour les...
Tout à fait.
Oui, ok.
D'autres questions sur la mutuelle communale? Je me vois. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. La 2025-60, c'est une proposition de révision de prix de la vente de la chaleur. Donc, vous savez que on a une chaufferie communale qui est en place depuis 2011 ou 2012, 2011, je crois que c'était octobre 2011, la mise en service. À peu près 4 km 700 de réseau. Et ces tarifs aujourd'hui sont liés par une délibération du 26 février 2018 avec un processus de révision de prix, mais le tarif de base est fixé. Aujourd'hui, on voit qu'entre 2018 et aujourd'hui, il y a eu une évolution importante de l'inflation. Et puis surtout, on a de plus en plus, on s'aperçoit que le système de révision et l'inflation a du mal à couvrir les frais courants. Donc on propose une augmentation de 2,5, ce qui a été vu au Conseil d'exploitation, pour donner un petit coup de boost et rééquilibrer ce qui n'a pas été fait dans les années précédentes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet?
Oui, juste, est-ce que l'augmentation va permettre d'arriver à peu près équilibrer les comptes de...
Alors, on n'équilibrera pas encore tout à fait tout de suite. L'équilibre devrait arriver à l'échelle de 2027 dans ces eaux-là. Mais en tous les cas, on est sur un déficit structurel qui a été fait depuis la création de la chaufferie d'ailleurs, mais aujourd'hui qui s'absorbe avec les réserves qu'on a fait, qui sont en réserve. Donc par contre, l'objectif c'est d'arriver dans les années 2027 par rapport aux progressions de vente et à la baisse des emprunts à être à l'équilibre de manière à ce qu'après ce chauffage soit périn dans l'avenir. tout en ayant gardé une réserve pour d'éventuelles mises à jour. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chauffage, sur l'augmentation du réseau de chaleur? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et là, je laisse la parole à Myriam pour le traditionnel jeu des emplois permanents et non permanents. Et son éternel problème de micro.
Donc pour cette délibération, voilà, comme à l'habitude, on vient créer et supprimer donc des emplois permanents. Donc on doit se mettre en adéquation entre les fonctions qui sont actuellement exercées au sein de la collectivité et leur grade correspondant, et dans le cadre des dispositions relatives à la promotion interne et à la réussite du concours, au concours, on réajuste donc certains postes. Aujourd'hui, donc, nous avons un agent qui était donc sur liste d'aptitude au CDG et qui a donc bénéficié d'une promotion et qui est donc passé sur le grade de rédacteur territorial, toujours à temps complet, hein, donc le poste était à temps complet initialement. Et donc, on vient supprimer un emploi d'adjoint administratif principal de première classe qui interviendra lorsque la nomination dans son nouveau cadre d'emploi sera effective. Donc ça, c'était pour un poste au pôle administration générale. Donc rien à voir, je le rappelle, avec de la promotion interne. Hein. Ce sont par rapport aux listes d'aptitudes du CDG. Donc l'agent a été quelque part voilà, sélectionné pour accéder au grade de rédacteur. Ensuite, nous avons un agent qui a donc eu son concours donc au pôle éducation, jeunesse et culture. Donc là, on crée un emploi permanent d'adjoint d'animation principale de deuxième classe, donc le concours réussi à temps plein. Et on vient supprimer l'ancien grade d'emploi permanent d'adjoint d'animation qui était là aussi à temps complet. Voilà.
Questions sur les emplois? S'il n'y a pas de questions, je mets au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Merci.
Donc la deuxième délibération qui concerne les ressources humaines. Donc là, suppression d'emplois, cette fois-ci non permanents. Et on vient modifier simplement des quotités hebdomadaires à hauteur de 10%. Donc là, c'est un réajustement qui s'effectue pour des besoins sur le personnel aux écoles, donc notamment pour du réajustement sur les temps périscolaires, les temps d'accueil du soir et puis sur la pause méridienne. Donc on supprime deux emplois sur le technique et puis on réajuste, on modifie les quotités de temps de travail. Voilà, toujours sur l'animation, sur le temps de la pause méridienne. Donc ça, c'est les réajustements réguliers de la rentrée.
Question? Je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. On a épuisé donc l'ordre du jour du conseil municipal du 24. Je vous rappelle quelques dates. Donc vendredi soir, rendez-vous à l'ancienne Mayette, donc rue de Malval, pour recevoir les bénévoles qui ont travaillé tout au long de l'été sur les activités de l'été, donc que ce soit les balades racontées, les animations montées par le périscolaire, les balades à vélo, les balades à pied, etc. Et également les bénévoles du comité des fêtes et tous ceux qui ont tourné autour de la Rosière. Donc, manière de un petit peu mettre en avant et discuter avec eux sur comment ça s'est passé. Ensuite, on aura le Salon du Livre, donc samedi, donc de 10h à 18h à la salle des fêtes. La semaine bleue du 6 au 10 octobre. On aura aussi les rendez-vous des 10 ans du Café des Aidons qui se passera au gymnase le vendredi 10 octobre de 13h30 à 18h30 où il y aura différentes stands, des conférences des spectacles et des expositions. Donc vous pouvez y aller, c'est totalement ouvert, c'est à mon avis très enrichissant. Et la matinée Ville Propre le 11 octobre, et puis il y aura Art et Passion qui bien sûr sera également dans la salle des fêtes du 10 au 19 octobre. Voilà, pour les différentes activités et manifestations qui arrivent dans les prochaines semaines. Conseil municipal, le prochain, on est sur... Conseil municipal, en théorie, il sera la première semaine de novembre. On devrait être sur le 5 novembre s'il n'y a pas de changement. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. À vendredi.